Je vous remercie de vous être déplacé ce soir donc pour cette conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences qu'organise le Centre d'Histoire du Travail dans les locaux des archives départementales et bien sûr en coordination avec les archives. Cette conférence s'inscrit également dans un programme de recherche qu'on a mené en interne au sein du Centre d'Histoire du Travail et qu'on a appelé l'usine à la campagne. Et donc, à partir des archives qu'on a pu glaner ça et là, à la fois chez nous, mais également aux archives départementales, on a mené quelques travaux de recherche, dont un sur UGECO à Nantes, de la révolte des couturières à la délocalisation.
Donc, oui, UGECO. Alors, on parle de Chantelle. Chantelle, ça vous dit quelque chose, Chantelle. UGECO, c'est pas gagné, hein. Si, peut-être pour certains, c'est bien, mais pour beaucoup, c'est pas gagné UGECO. Et pourtant, c'est une des grèves les plus longues des années 70, et une grève très particulière, je vais en parler après. C'est intéressant de voir que ça a été un conflit finalement oublié, il y a plusieurs raisons à ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, même si c'est pas le sujet de mon intervention. Mais en tous les cas, je vais revenir sur ce conflit. Je vais revenir aussi sur la façon dont ensuite l'entreprise va décider de délocaliser l'unité de Nantes. Alors UGECO, ça veut dire Union Générale de Confection. Alors c'est une entreprise qui est née en fait en 1956 du regroupement des usines Cholet-Bérard et Willemann. D'ailleurs, jusqu'en 1978, ça restera Cholet-Bérard et Willemann réunis. Hein, c'est le logo hein, de l'entreprise. Alors en 1956, c'est donc le moment où ils se regroupent et en 1963, ils fusionnent. À ce moment-là, quand ils fusionnent, il y a en fait la direction, le siège social qui est à Paris. Il y a donc l'usine nantaise et il y a également une autre unité à Louviers, dans l'Eure. Voilà. Alors en 1966 se rajoute une unité de production à Leuger, donc toujours en Loire-Atlantique, et en 1967 deux autres unités à Saint-Malo et à Bernay. Bernay, donc, c'est aussi dans l'Eure, Saint-Malo, qui, donc, en fait, c'est pas tout à fait une acquisition. Ils reprennent deux entreprises, deux unités de production qui appartenaient à une autre société, la SECAM. Bref. Donc, quand on va se considérer l'année 70-71, on a ces cinq unités de production, plus, donc, Paris, qui est le siège social et où se trouve également tout ce qui va concerner les services commerciaux de l'entreprise. À ce moment-là, c'est le numéro 1 de l'habillement militaire administratif en France. Numéro 1 de l'habillement militaire administratif. Alors, il confectionne des uniformes pour l'armée, la gendarmerie, la police, la RATP, la SNCF, les sapeurs-pompiers de Paris, d'autres administrations. Ils ont aussi une clientèle dans le secteur privé, notamment des banques, et également des compagnies pétrolières aussi, Esso, Fina, plus quelques magasins de vente en Afrique francophone. Voilà. Donc, numéro 1 de l'habillement militaire administratif et aux alentours de 1200 salariés. 200 à Paris. À Nantes, on est à peu près à 380, et puis entre 100 et 180 pour les quatre autres unités. Voilà donc la présentation générale de cette société UGECO. Alors Nantes, l'unité de production de Nantes est située rue de Coulmiers, au 64 rue de Coulmiers. Inutile d'y aller, hein, il n'y a plus rien. C'est aujourd'hui des immeubles au 64 rue de Coulmiers. Alors, j'ai retrouvé très très peu d'images, de photographies de cette entreprise, hein, de sa localisation. Celle-ci a été prise pendant la grève, hein, donc il y a le portail qui est un des portails d'entrée. On se rend compte tout de suite que l'usine n'est pas véritablement neuve. Hein, en fait, elle date de 1884. Les locaux datent de 1884. Et tout à l'heure, je vous parlerai de la vétusté de ces locaux. Alors, une autre image hein, de l'entreprise, là, qui effectivement est aussi là à l'intérieur. Hein. Ce sont les deux seules photos que... Alors, celle-ci est issue donc d'un journal. C'est les deux seules photos que j'ai retrouvées, vraiment, où on montre l'entreprise. Alors, mon intervention va se faire en fait en trois temps à partir de là, sachant qu'effectivement, l'objet, c'est cette grève de 71 qui va durer du 15 septembre 71 au 21 octobre, donc plus de cinq semaines de grève, que c'est une grève qui va aboutir à une victoire, quelque part, des revendications, mais une victoire à la Pyrrhus dans le sens où déjà, l'employeur, la direction du GECO a décidé la restructuration, c'est-à-dire la délocalisation et la fermeture de Nantes. Et donc la délocalisation sur deux unités, on passe d'une à deux unités, une à Sainte-Pazanne et l'autre à Guérande. Voilà. Alors, je vais faire ça en trois temps parce que je voulais quand même commencer par faire un état des lieux de l'industrie textile. Ça me paraissait important tout simplement parce que ça me paraissait évident que j'allais trouver des chiffres, que c'était même pas la peine. Bon, comme quoi la naïveté n'est pas une histoire d'âge, hein, puisque voilà, en fait, non, c'est vraiment pas si simple que ça. Donc ça me semblait quand même important de revenir là-dessus. Je vais faire un retour sur la grève de septembre-octobre 71. Mon objectif, c'est pas de faire de l'événementiel, mais d'insister sur quelques points, et ensuite donc la stratégie de délocalisation, pourquoi on va pourquoi on fait deux unités, pourquoi on va à Sainte-Pazanne, pourquoi on va à Guérande. Voilà. Alors, l'état des lieux de l'industrie textile. Quel est le poids de l'industrie textile dans le département? C'est pas si évident que ça à trouver. Vraiment pas évident, et j'ai fait pas mal de recherches. Alors, en regroupant des sources, celle de la direction du travail, celle de l'INSEE, la préfecture, et puis l'association Ouest-Atlantique, qui est une sorte de lobby patronal Ouest-Atlantique. Hein. Ils vont avoir un rôle très important, d'ailleurs, dans la stratégie de délocalisation du GECO. C'est une association d'industriels qui est là pour, justement, trouver des opportunités à des entreprises pour s'installer. Alors, ils sont sur tout le Grand Ouest, hein, ils vont au Poitou-Charentes. Pour s'installer donc dans le département, trouver les meilleures implantations, les meilleurs partenaires, etc. Alors on voit que, grosso modo, on est à peu près à 7000, quoi, 6500, 7000 salariés. Ça représente, vous le voyez, à peu près 2,5% du total des emplois du département. Donc ça reste quand même assez faible, quoi, hein. On n'est pas dans un bastion, hein, de l'économie départementale. Ça reste assez faible. Si on donne quelques précisions. En fait, l'industrie textile, on la divise en trois branches. Les industries textiles, donc le tissage, le tissu, l'habillement et le travail des étoffes, la confection et tout ce qui concerne cuir et peau. Donc on retrouve nos chiffres d'à peu près 7000 et on remarque en fait que la confection, habillement et confection, le travail des étoffes, c'est la moitié, quoi. Le reste, vous avez les chiffres, hein, mais je crois que c'est surtout l'idée à retenir, c'est qu'on a la confection qui représente à peu près la moitié des emplois salariés quand on veut un petit peu détailler à l'intérieur des industries textiles. La structure des entreprises textiles. En fait, ces entreprises textiles, je me base là sur un rapport qui avait été fait par la CFDT en 74, hein, un livre noir de l'emploi où il reprenait comme cela, secteur par secteur. Et en fait, vous le voyez, à 90%, ce sont des petites entreprises. C'est un monde de petites entreprises. Ce qui explique aussi, par ailleurs, ce dont je vais parler après, c'est-à-dire la faible syndicalisation. C'est un monde de petites entreprises, et vous le voyez, plus de 200 salariés en 74, parce que je n'ai pas trouvé de chiffre correspondant à 71, là, notre date qui nous intéresse. 74, on est à 5 entreprises de plus de 200 salariés. Et ce n'est pas des entreprises qui vont aller à 1000, à 2000, ce n'est pas des Dubigeon, ce n'est pas des ACB, ce n'est pas des chantiers navals. Hein. Quand on regarde précisément les chiffres, là je les ai pour 71, en 71 il y en avait 6. Il y en a une qui a disparu, entre-temps c'est Bégidim parce qu'il y a eu un incendie très grave qui doit être en décembre 72 qui fait que le nombre d'employés va baisser. Mais vous le voyez, donc on n'arrive qu'à 400, hein. Donc ce sont des structures qui restent quand même très limitées en nombre de salariés. 400, vous avez quand même deux entreprises qui sont donc dans le centre de Nantes, hein, UGECO et Tricosa, deux entreprises qui sont dans la banlieue nantaise, Carquefou et Saint-Herblain pour Béji et Chantel, et deux autres, Anceny et Vieille-Vigne. Donc Anceny et puis Vieille-Vigne plutôt dans le sud du département, pour Delomo, pour la chaussure. Donc on a véritablement globalement un émiettement et une structure d'entreprises, de petites entreprises, avec quelques grosses unités, mais sans aller sur de très grosses unités. À ce moment-là, effectivement, on a quand même très peu de très grosses entreprises. Les spécificités de cette industrie textile, là encore, rien de très novateur, enfin, il n'y a pas de scoop là-dessus. Ce que l'on sait évidemment dans cette spécificité, c'est d'abord qu'il y a un très fort taux de féminisation. Ce sont des entreprises très très féminisées, mais là aussi c'est bien d'avoir des chiffres quand même. Et que la féminisation, elle est surtout importante dans la confection. Elle l'est moins pour ce qui concerne tout ce qui est cuir et peau, avec certainement des travaux avec une force physique plus importante qui explique peut-être là une égalité une quasi-égalité homme-femme, mais autrement, effectivement, la confection, c'est hyper féminisé. C'est un secteur hyper féminisé. Et alors, quand on regarde les chiffres du GECO, c'est vraiment très, très, très féminisé. Vous le voyez, on est là à un taux de féminisation de 95%. Et que ce soit d'ailleurs à Nantes ou à l'EG, hein, puisque j'ai retrouvé les chiffres pour Nantes et l'EG à partir de l'activité du comité d'hygiène et de sécurité. Hein, donc c'est UGECO qui envoyait ça à la direction du travail, à l'inspection du travail. Et donc on a tous les chiffres là. On a effectivement une très très forte féminisation, notamment au niveau des ouvriers, hein, 97% et 95,7%. Pour les apprentis, bah oui, c'est que des filles, ce sont des filles qui viennent juste d'avoir le CAP, qui ont 17 ans, et c'est un avantage extraordinaire parce qu'on les paye quand même 20% de moins, hein, évidemment. Voilà. Alors, bon, j'ai pas de photo de l'usine de Nantes de l'intérieur. Il y a celle-ci qui est dans la plaquette de présentation des ateliers de l'EG. Donc vous voyez, hein, toutes ces machines à coudre, c'est ce qu'on appelait les mécaniciennes. Là, ce ne sont que des femmes. J'ai trouvé un homme qui avait été mécanicien. Par contre, on voit un homme au premier plan qui est à la coupe ou à la presse, peut-être la coupe. C'est la coupe, oui, c'est bien ce que je pensais. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est de remarquer qu'il y a quand même également non seulement une très forte féminisation, mais ensuite c'est aussi très sexué au niveau des postes. C'est-à-dire que bon, les mécaniciennes, hein, celles qui sont sur les machines à coudre, ce ne sont que des femmes. Les hommes ont des postes bien particuliers, la coupe, la presse, la manutention, mais ils se limitent à ces postes. Donc on a également cette représentation très sexuée au niveau des postes. Bon. Et puis, là, la qualité est beaucoup moins bonne parce que c'est tiré de journaux, hein, mais ce sont des photos avec, vous voyez, les postes. Là aussi, c'est à l'EG. Hein, c'est au moment de l'inauguration de l'usine de l'EG en septembre 1966. Alors, ça implique autre chose, c'est qu'il y a une très forte féminisation, c'est très sexué au niveau des postes. Et en plus, eh bien, c'est aussi très visible au niveau des salaires. C'est-à-dire que les hommes ont des salaires supérieurs aux femmes. C'est lié en partie à leur poste, mais c'est lié aussi, quand on regarde un petit peu de près les listes, au fait que beaucoup d'hommes ont une ancienneté supérieure, sont là depuis plus longtemps dans l'entreprise. Il y a un très très gros turnover au niveau des filles, qui sont là souvent depuis très peu de temps, qui restent un ou deux ans. On a pour les postes d'hommes, manutentionneurs par exemple, on voit bien qu'ils restent quand même sur un temps qui est beaucoup plus long. Ça peut expliquer aussi les différences de salaire, mais ce qui explique essentiellement la différence de salaire, c'est le fait que les femmes sont dans les catégories, hein, et les postes qui sont évidemment les moins bien payés. Alors, fort taux de féminisation et aussi faible syndicalisation. Le textile, ça représente, voyez, pour la CGT, ça fait 1% des timbres syndicaux. Sur le département, ça représente à peu près 300 adhérents. Si je prends la CFDT, bon, on arrive, vous le voyez, à 2% des mandats, ça fait à peu près 390, peut-être 400 adhérents, mais pas plus, quoi. Donc vous le voyez, on a là effectivement une faible syndicalisation globale. Alors pour UGECO, c'est un petit peu particulier quand même. Alors à UGECO-LEG, il y a une section CGT et c'est la CGT qui remporte les élections, l'élection du personnel. Bon, ils ont à peu près 35-37 cartes d'adhérents. Par contre, dès qu'il y a des mouvements ou qu'il y a un appel à la grève, on voit bien que l'ensemble des employés ne suit pas. Bon. À Nantes, c'est un petit peu différent. Il y a une faible syndicalisation et pendant toutes les années 60, quand on regarde un petit peu les délais du personnel, à chaque fois, il n'y a aucun des 5 ou des 6 postes qui ne sont pourvus pour le comité d'entreprise, pour l'équipe du personnel. Tous les postes ne sont pas pourvus. Donc, bon, ça ne semble pas attirer les foules, quoi. Hein. Alors, c'est la CFTC puis la CFDT qui, en général, remportent ces élections. Il y a même en 69, il y a la direction qui est créée, la direction du travail, tout simplement parce qu'il n'y a aucune liste. Et puis, y a un événement, certainement, alors là, je ne vais pas retrouver des témoins de l'époque, il y a un événement qui semble important, c'est en 1970, en avril 70, il y a des débrayages. Il y a des débrayages en avril 70, et ces débrayages vont entraîner une certaine dynamique, apparemment, puisque dans les semaines, dans les mois qui suivent, la CFDT va réussir à capitaliser à peu près 180 cartes. Sur les, c'est-à-dire, ça fait à peu près la moitié, quoi, là, à peu près de la moitié des effectifs. Apparemment, cet événement a eu une importance, il y a une dynamique qui s'est créée, et deux leaders, on peut dire, qui ont émergé, qu'on va retrouver ensuite dans le mouvement. Juliette Housset, c'est celle qui tient le mégaphone, hein, qui est décédée, hein. Et donc Jacques Guinche, à côté d'elle, qui était manutentionnaire. Alors, Juliette était mécanicienne, Jacques Guinche, lui, était manutentionnaire. Il était là dans l'entreprise depuis assez longtemps, depuis 61. Je n'ai retrouvé strictement aucune trace de lui. En tous les cas, il y a une dynamique qui a été créée. Ce qui fait que c'est vrai que, au moment de la grève en 71, ben, c'est vrai que là, il y a un ancrage syndical qui est récent, mais qui est réel. La grève en tant que telle, cette grève de septembre-octobre 71, c'est vrai, une grève du ras-le-bol. C'est comme ça que c'est présenté par la presse, c'est comme ça que c'est aussi présenté par les témoignages des ouvrières. Il y a le mot révolte qui vient souvent, hein, et une grève du ras-le-bol. Alors, ce ras-le-bol, c'est évidemment d'abord le ras-le-bol des bas salaires. Et dans les tracts qui vont venir dans les semaines suivantes, on retrouve toujours, d'abord et avant tout, cette revendication salariale. Ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque, les salaires de l'industrie textile sont à peu près 20% inférieurs aux salaires des autres branches industrielles, à la moyenne de l'industrie. Et que, à UGECO, les salaires sont, et dans tout ce qui est habillement militaire, hein, et justement, la revendication, c'était que l'habillement militaire soit nivelé avec l'habillement civil où c'était payé plus cher. Et donc, à UGECO, on est à peu près entre 10 et 15% de salaires moins élevés que ceux de l'industrie textile. Donc, on a des salaires qui sont effectivement très faibles. Et on arrive tout juste au SMIC, et même les plus jeunes, ces jeunes femmes-là qui viennent de sortir de CAP, qui ont 17-18 ans, elles sont payées 20% de moins encore. Donc il y a vraiment des salaires qui sont particulièrement bas, et la première revendication, ce sont les salaires. Avec une volonté, vous voyez, c'est marqué une augmentation de 25 centimes de l'heure. Bon, cette revendication, elles vont la tenir jusqu'au bout. L'autre ras-le-bol, c'est les cadences. Ces cadences qui apparaissent infernales, et là encore, hein, cadence si rapide, la deuxième revendication, c'est la diminution des cadences. Et c'est lié, en fait, les deux sont liés, puisque pour améliorer le salaire, il faut avoir la prime de rendement. La prime de rendement, on l'a si on dépasse la cadence moyenne. Sauf que les cadences sont tellement élevées que finalement, c'est très difficile d'obtenir cette prime de rendement. Je voudrais juste vous lire quelques témoignages issus de cette lettre collective des ouvrières envoyée aux autres usines du groupe et lettre collective qui ensuite a été publiée dans les cahiers de mai en octobre 71, donc au moment finalement où le conflit va se terminer. Nous sommes tout obligés de faire chaque jour une production fixée arbitrairement. Le jour où l'une de nous n'atteint pas sa production, elle reçoit une lettre d'avertissement recommandée. À la troisième, c'est la porte. Pour garder notre travail, il faut donc réaliser la production. Et comme 8 heures ne suffisent pas, beaucoup d'entre nous, au moins le tiers, sont obligés de venir plus tôt le matin et de rester plus tard le soir. Voilà comment on nous fait faire des journées de 9 heures, qu'on nous paye 8. Au bout du mois, c'est souvent en effet 20 heures qu'on a donné gratuitement au patron, rien que pour rester dans son usine. Je continue un autre témoignage. La prime de rendement, pour la toucher, il faut être depuis plusieurs mois sur le même poste, crever toute la journée, ne pas aller au WC, et il faut encore que la machine ne tombe pas en panne. Il n'y a pas plus de 80 camarades, donc ça fait à peu près un tiers, hein, des mécaniciennes, qui y arrivent sur un mois. Et puis j'ai eu le seul témoignage que j'ai eu d'une jeune fille à l'époque qui a travaillé à UGECO de 70 à 72, qui s'appelle Joëlle Gergaud. Et bon, alors d'abord, ça l'intéressait absolument pas de me parler, hein, bon, donc il a fallu un petit peu que je mette un peu de temps. Et puis au bout du compte, elle a fini par me dire qu'elle avait qu'un seul souvenir. Bon, pour elle, c'était très très loin, elle y avait passé que 2 ans, elle avait qu'un seul souvenir. Et le seul souvenir qu'elle avait, c'était, elle se rappelait les filles qui pleuraient parce qu'elle ne tenait pas la cadence. Et c'était son seul souvenir. Alors, il a fallu que Vlatan un peu 10 minutes, un quart d'heure avant qu'elle y arrive, mais voilà, elle est quand même arrivée à me donner ce souvenir. Et c'était son seul souvenir. Alors le ras-le-bol, c'est aussi les conditions de travail, parce que c'est quand même quelque chose, UGECO à l'époque. La vétusté des locaux, les journalistes qui viennent voir UGECO, voilà, y a une grève donc on vient voir, et quand on lit les articles, alors ils parlent de couvents abandonnés, de casernes désaffectées, bon ça fait pas envie, hein, et de manufactures 19e siècle. Bon. Là encore un témoignage, les bâtiments sont pourris, s'il pleut il faut faire le rendement d'une main, parce que de l'autre on tient un parapluie ou un morceau de plastique sur la tête. Au premier coup de vent, les vasistas dégringolent avec leurs carreaux et de temps en temps, toute une plaque de plâtre descend du plafond. Le lundi matin, il faut commencer la semaine dans les crottes de rats. Quand un balayeur est malade une journée, il faut voir les puces. L'appareil de production ne vaut pas mieux. Il est vieilli. L'entreprise n'a pas investi. Et de toute façon, on le sait bien, il y aurait eu une restructuration à un moment donné. Elle a été accélérée par la grève, mais il n'investissait plus. Ni dans l'appareil de production, ni dans les locaux, on n'investissait plus. Les machines ont 50 ans. Quand une machine tombe en panne, la chaîne est bloquée et le rendement tombe. Mon taco est toujours en panne. C'est une vieille Singer 241, sans marche arrière ni coupe-fil. Il n'y a plus de pièces de rechange. Alors on est obligé d'aller le prendre sur d'autres machines. Alors le dernier témoignage est intéressant. Vous allez voir pourquoi. En juin, un moteur de ventilateur dépresse a flanché. Une vingtaine de filles ont été mises à pied pendant 3 jours. Après, il faut récupérer. Et encore, c'est presque une chance pour nous. À Leger, les machines sont neuves et soi-disant moins fatigantes. Alors le rendement est plus élevé. Ah oui, hein, comme quoi finalement la vétusté de l'appareil de production peut être un avantage parce qu'on va demander des cadences un peu moins élevées. Enfin, qui restent quand même très élevées. Le ras-le-bol aussi, c'est le mépris patronal. On a une direction qui, de toute façon, ne croit pas qu'il puisse y avoir un mouvement. Ils sont sur deux. D'accord, il y a une grève qui débute, mais ça ne va pas durer. Et il y a un mépris patronal qui est vraiment très, très fort. Et notamment de la part de son PDG, dont j'ai réussi à avoir une photo, c'est celui qui est, voilà, Louis Bérard, PDG de l'entreprise à Paris, qui fait beaucoup d'allers-retours, d'ailleurs, dans la région, et qui a véritablement un mépris. Mais un mépris qui est vraiment lié au fait qu'il considère que de toute façon, il n'y aura pas de mouvement. Parce qu'il n'y en a jamais eu, quoi. Hein. Il y a eu des débris, mais il n'y aura pas de mouvement. Et il en est sûr que, de toute façon, il peut se permettre ce mépris. Alors, ça fait le problème des salaires, ça faisait déjà un an. Et il repoussait tout le temps. Bon, on n'en parlera pas, qu'on en parlera à Noël. Bon, en fait, on ne voyait jamais rien venir. Quelques jours avant la grève, il fait un référendum pour savoir si les salariés veulent de la musique. Bon, parce qu'apparemment, à Leger, la musique, évidemment, c'est comme dans les supermarchés, ça fait acheter, là, ça faisait mieux travailler, apparemment. Au début du mouvement, tout début du mouvement, il déclare devant l'inspecteur du travail, ce qui a été validé par l'inspecteur du travail, « Je ne vais quand même pas aller discuter avec toutes ces poules en train de piailler dans mon poulailler. » Premier jour du mouvement, donc, le mercredi, les délégués syndicaux, Juliette Housset, etc., Jacques Guinche, demandent une entrevue. On leur accorde une entrevue pour le mercredi d'après, une semaine après, en disant de toute façon, le truc va pourrir entre-temps. Donc, il y a vraiment ce mépris-là, très très fort. Et en fait, ce mépris, c'est aussi un moteur de la grève. Là encore, il y a une employée qui le dit. Le patron joue au dur, alors nous aussi, du coup, on joue au dur. Et certainement, ce mépris, finalement, s'est un peu retourné et qu'il y a une volonté, là, effectivement, de contrer ce mépris. Et que ça a été un moteur pendant le mouvement. Alors, une grève de l'apprentissage militant. Bon, je ne suis pas content de mon titre, mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas trouvé mieux. Une grève de l'apprentissage militant. Ces femmes, c'est pour la plupart leur premier mouvement, leur première grève. Et en fait, on voit bien, et je vais après vous le montrer par quelques témoignages, on voit bien qu'il y a effectivement cet apprentissage militant. Un apprentissage militant qu'il faut à la fois comprendre à deux niveaux. Un, c'est qu'il faut lier ça aux contraintes domestiques, et ça va impliquer un certain nombre de choses. Et deux, que cet apprentissage militant, eh bien, il faut s'approprier des pratiques militantes qui sont masculines. Et que l'un comme l'autre, ce n'est pas évident. Et elle raconte cela dans un numéro du Torchon Brûle. Alors le Torchon Brûle, c'est une revue féministe, tendance MLF. Il y a eu quelques numéros hein, sur 2 années. Et en fait, des membres du MLF de Nantes vont dans l'entreprise et vont discuter avec ces femmes en grève. Il en ressort une enquête de 2 pages qui paraît donc dans Le Torchon Brûle. Et c'est intéressant parce que il y a une analyse un petit peu a posteriori de la façon dont elles ont mené leur lutte, de ce qui a manqué, et aussi justement de cette expérience militante, de cette pratique militante, et de la difficulté aussi de cette pratique militante en tant que femme. Et donc c'est pour ça, c'est un peu l'angle que j'ai pris là, parce que ça, je trouvais ça intéressant. Alors, bon, j'ai essayé de condenser tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est justement la difficulté de lier avec des contraintes domestiques, de lier la grève et les contraintes domestiques. C'est ainsi qu'elles ne vont pas occuper l'usine, en fait. Ou l'occuper, si, elles le feront à la fin. Les piquets de grève, il n'y aura pas de piquets de grève au départ. C'est à partir de la 4e semaine. C'est-à-dire qu'il y aura, au départ 20 d'ouvrières qui vont continuer à travailler. Il y a une unité de production qui va continuer, une chaîne qui va continuer de tourner. Et au bout de 4 semaines, ben, elles ne sont plus 20, mais elles sont 50-60. Quoi. Donc là, on va mettre en place des piquets de grève, mais on ne l'a pas fait avant. Ben oui, on parle de la crèche. Ben, une crèche. Bon, la grève des Batignolles qui s'était déroulée avant, les types aux Batignolles, ils n'allaient pas parler de crèche. Hein, il y avait leur femme à la maison. Donc là, on voit bien que ces contraintes domestiques jouent un rôle essentiel sur les modalités de la grève. Que la grève ne se déroule pas peut-être comme elle aurait pu se dérouler s'il n'y avait pas ces contraintes domestiques que ces femmes se sentent obligées évidemment d'avoir. Alors, il y a également, on le voit, la difficulté à communiquer par rapport à l'extérieur, que ce soit par rapport aux autres usines de l'entreprise, notamment celle de Legé. Ou bon, en fait, alors à Legé, ce qui se passe, c'est très simple. Hein. On sait bien ce qui se passe à Nantes, et immédiatement, il y a des revendications, et le patron accepte les revendications tout de suite. Il n'a pas envie, évidemment, que le mouvement s'étende. Bon. Et puis, difficulté pour communiquer avec les autres entreprises, difficulté pour communiquer aussi avec la population. Et là, on est dans des pratiques militantes qu'elles n'ont pas. Et un peu, elles le disent, la honte de se montrer en spectacle. Aller dans la rue, porter une pancarte, distribuer un tract, faire une collecte. Pour elle, c'est se montrer en spectacle. Et dans... Alors bon, là, il n'y a que quelques petites phrases, mais je peux vous donner des choses plus précises. À ce moment-là, personne ne connaissait UGECO. On se demandait si c'était un collège, un grand magasin, et nous n'avons pas su expliquer ce qu'était UGECO. Et pourquoi on faisait grève ? Pourquoi on faisait appel à la solidarité ? La participation des femmes aux collectes organisées par la CFDT était difficile, jusqu'à la 4e semaine, où de nombreuses filles ont pris sur elles d'aller dans la rue quêter et crier « solidarité avec UGECO ». Beaucoup avaient honte de se donner en spectacle, et les réflexions qui leur ont été faites par des hommes, même ouvriers, ne les incitaient pas à continuer. Elles feraient mieux de faire le trottoir, ça leur apporterait davantage. Hein, c'est un peu violent tout ça quand même. Hein. Bon. Mais il y a cette difficulté donc, de s'approprier ces pratiques militantes masculines pendant cette grève. Et le torchon brûle, là, justement, montre un petit peu cette difficulté. Bon, ça va quand même se terminer par une victoire, en tous les cas, ou à court terme, hein, de leurs revendications. Mais ça a duré 5 semaines. Alors ça pose aussi autre chose, qui étaient les relations avec les syndicats, surtout avec la CFDT, puisque c'était le syndicat, le seul syndicat dans l'entreprise, enfin, jusqu'au 12 octobre, le seul syndicat dans l'entreprise. C'est assez compliqué, finalement, parce que le syndicat CFDT, au départ, ne croit pas au mouvement. Le responsable de l'union locale, qui s'appelle Pierre Mabi, pense que, en fait, mieux vaut faire des grèves tournantes, mais qu'une grève totale sur plusieurs jours, ça n'a aucune chance. Durant tout le mouvement, et peut-être pas employer le terme de frilosité, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu apparemment, et puis c'est pas une priorité, quoi, hein, c'est pas une priorité, ces femmes du textile-là. Mais il y a eu du temps, hein, avant que les syndicats, et notamment la CFDT, l'union locale, eh bien, mettent en marche ces réseaux, mettent en marche, évidemment, la possibilité d'organiser la solidarité et de faire que le mouvement gagne. Ce qu'il faut voir, c'est que la première manifestation dans la ville, c'est le 30 septembre, organisée par l'UL-CFDT. Et augmenter les salaires, hein, cette pancarte qu'on voit partout. On est donc que le 30 septembre, donc 15 jours après le début. Et que la première... ça, je ne sais pas si ça a été pris ce jour-là ou un autre jour. On va avoir tendance à croire que c'est ce jour-là aussi. Donc on voit toujours énormément de femmes. C'est des manifestations de femmes. La précédente aussi, vous le voyez. On retrouve là Juliette Housset. Alors Jacques Guinche est peut-être là, je ne sais pas. Je n'ai pas bien reconnu. Bon. Et en fait, il y aura une manifestation interprofessionnelle le 15 octobre, le vendredi 15 octobre. Donc on est un mois, quoi. Donc on voit bien que là, la machine syndicale a mis beaucoup de temps à se mettre en branle. Et que, bon, effectivement, on est dans un secteur peu syndicalisé, dans un secteur où, effectivement, ben, ce n'est pas une priorité. Je voudrais terminer juste par c'est une petite caricature, ouais, les ouvrières du GECO, un petit Batignol. Alors comment on peut l'interpréter, ce petit Batignol, hein? Alors bon, référence, vous voyez, référence toujours à une lutte masculine. Alors c'est vrai, c'était la Batignol, c'est la grande lutte du début de l'année. C'est janvier-mars, fin janvier, début mars. Ça a duré un tout petit peu plus longtemps, 3-4 jours de plus. Un petit Batignol. Y a-t-il de la condescendance là-dedans pour un mouvement de femmes? Alors, la fin de grève est ubuesque. Alors bon, oui, c'est un petit détail, mais bon, la fin de grève est ubuesque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mercredi 20 octobre, donc finalement... on signe un protocole d'accord. Il a fallu que le préfet s'y mette, fasse pression sur Bérard à Paris, que l'inspection du travail soit arbitre de tout ça. On a un protocole, les 25 centimes d'augmentation, bon, répartis sur plusieurs mois, mais enfin, c'est bon, on les a. Bon, les cadences, il y a une commission d'examen qui va examiner tout ça. Bon, ça semble être une victoire. Donc, reprise du travail prévue à 14h le jeudi 21. À 14h, donc, les grévistes se présentent à l'entreprise pour, évidemment, reprendre le travail. Les portes sont fermées. De l'autre côté de la rue se trouvent, 70-80 personnes, les cadres, la maîtrise et les salariés qui avaient continué le travail. Et qui, alors, se mettent en grève, tout simplement, parce qu'avait été créé quelques jours plus tôt un syndicat, la CFT, donc syndicat patronal, bon, on le sait bien, tout simplement parce qu'ils considèrent que le protocole d'accord n'est pas bon. N'est pas assez bon. Comme il y a la maîtrise, les cadres, etc., de toute façon, les unités de production ne peuvent pas démarrer, donc on ne peut pas travailler. Ils demandent un rendez-vous au patron, qui évidemment leur accorde. Alors là, ils n'ont pas attendu une semaine. Alors, dans la demi-heure, c'est bon. Deux heures plus tard, le protocole est signé, il devait déjà être prêt à l'avance. Bon, le but, évidemment, c'est de discréditer le mouvement, c'est de couper à la racine, quoi. On voit bien. Alors, au bout du compte, on reprend le travail à 17h, bon, dans une ambiance, vous imaginez, pas géniale, quoi. Et puis, donc, bon, au bout du compte, ça va demander 2 ou 3 mois. La CFDT et les délégués syndicaux considèrent que, de toute façon, la CFDT n'est pas représentative, donc que l'accord signé avec le patron n'a aucun sens. Bon, ben, le protocole était quasiment le même, évidemment. Et puis, de l'autre côté, le patron dit, ben, écoutez, moi, j'ai signé un protocole le 20 au soir, là, quasiment le pistolet sur la tempe, quoi. Donc, voilà. Au bout du compte, plusieurs mois, enfin en février, il y aura un protocole d'accord signé par tout le monde qui reprendra donc effectivement eh bien, les décisions du 20 octobre. Mais bon, quand même, c'était assez bizarre, assez usque, hein, deux grèves, deux accords, enfin, c'est assez fantastique. Voyons maintenant cette fameuse délocalisation de la direction du GECO. Alors pourquoi partir? Ah oui, c'est vrai, bonne question, pourquoi partir? De toute façon, ça faisait déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que la direction avait décidé de partir pour des aspects techniques de vétusté des locaux. Sauf que, apparemment, ce qu'ils comptaient faire, c'était partir dans la banlieue, rester dans la banlieue nantaise. Bon, Orvault, Carquefou, on ne sait pas trop, hein, puisque c'était les grandes zones industrielles qui se développaient à ce moment-là. Mais en tous les cas, ne pas rester là. Bon. Et puis, il y a eu la grève. Et cette grève, évidemment, change le rapport de force dans l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, il est évident que ça accélère le processus de restructuration et de départ. Sauf que ça, non seulement ça accélère le processus de restructuration et de départ, mais ça change la donne. c'est que d'abord, ils ont bien vu que ben, finalement, il y avait eu un mouvement, que ben, quand il y a une forte concentration dans un même endroit, dans un même lieu, hein, qu'on ait quand même 200, 300 mobilisés, ça quand même peut être efficace. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a non seulement l'idée qu'il faut restructurer, qu'il faut partir, mais qu'il ne faut peut-être pas rester dans la région nantaise, parce que, ben, vu les salaires qu'on donne, ça risque de encore engendrer d'autres mouvements sociaux par rapport à tous les voisins. Et ensuite, eh bien, qu'on n'a pas intérêt à garder une seule unité de production, éviter cette concentration un peu malsaine d'ouvrières, mais qu'on a intérêt à en faire deux. Et donc, il y a une double décision. On s'en va, et ensuite, on fait deux unités au lieu d'une seule. Et cette décision, elle est prise, en fait. Elle est prise avant la fin de la grève. J'ai retrouvé là, des courriers entre Ouest Atlantique, ce fameux lobby patronal là, et la direction du GECO. La décision, elle est prise vers le 10 octobre. La grève se termine le 20. La décision de s'en aller et la décision d'avoir deux unités de production. Où aller, c'est vrai que le choix va être très rapide pour la première unité de production. Ça va être Sainte-Pazanne. Une délocalisation au plus proche. Alors, c'est très rapide, ça. Dès la fin de l'année, dès novembre-décembre, le choix est fait de Sainte-Pazanne. Alors, on est en plein pays de Ré, dans une région que l'on peut considérer comme particulièrement conservatrice. Quel avantage a Sainte-Pazanne ? Le premier avantage de Sainte-Pazanne, c'est qu'effectivement, il y a un réservoir de main-d'œuvre. Il y a un réservoir de main-d'œuvre à Sainte-Pazanne. Il y a des facilités de recrutement. Milieu rural, des jeunes femmes, une main-d'œuvre entre guillemets, je mets tous les guillemets qui s'imposent, docile, peu revendicative. En plus, pas très loin, il y a aussi un autre réservoir de main-d'œuvre qui sont les femmes des travailleurs de l'usine d'Indrette. Donc la montagne, le pèlerin, donc c'est pas très éloigné, on a un autre réservoir ici de main-d'œuvre féminine. Donc le réservoir de main-d'œuvre, on l'a. Et d'ailleurs, il n'y aura aucun problème de recrutement. Ça va aller très très vite. La deuxième raison, c'est la proximité de Nantes. Mais pas trop. 30 km. Alors l'intérêt, c'est que ceux qui de Nantes veulent venir à Sainte-Pazanne pourront aller à Sainte-Pazanne. En fait, il y a 78 personnes qui vont faire ce choix. Ce qui veut dire qu'il y en a quand même plus de 200 qui ne le feront pas. Mais il y a 78 personnes qui vont faire ce choix d'aller à Sainte-Pazanne. On organisera des cars. Et puis, cette proximité de Nantes, c'est évidemment la proximité d'une grande ville. C'est aussi la proximité d'un aéroport. Et le dernier intérêt, c'est la proximité de l'EG, d'un point de vue logistique. Donc, on a là un argument géographique qui plaide pour Sainte-Pazanne. Il y a un troisième argument qui est, lui, d'ordre totalement politique, finalement. C'est les relations interpersonnelles et les relations de confiance entre, d'un côté, des industriels, désireux de trouver l'endroit le mieux pour eux pour s'implanter, et des politiques qui voient évidemment tout l'intérêt électoral de créer des emplois. Et à ce titre, Sainte-Pazanne, évidemment, correspond tout à fait. Le climat de confiance, il s'est créé autour d'hommes comme Bérard, Willman, son associé, qui connaît bien le député du coin qui s'appelle Lucien Richard, personnalité importante de la région, qui va tout faire pour convaincre son collègue Gauvry. Alors Gauvry, je ne sais plus son prénom, c'est le maire de Armand, voilà, ça y est, je trouve le prénom. Armand Gauvry, le maire de Sainte-Pazanne, qui justement eh bien, avait une zone industrielle en construction. L'intérêt, évidemment, c'est que le terrain ne coûtera pas très cher. Mais là, ces relations politiques interpersonnelles, qui sont vraiment des relations de confiance entre ces industriels et ce clan politique, bon, conservateur, dans une région très marquée à droite, ça joue un rôle très important. Reste la deuxième unité. Et là, ben, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et le choix va se faire plus tardivement. Je vais vous montrer. Alors là encore, la carte que j'ai faite, là, je l'ai faite à partir des courriers entre Ouest Atlantique, les CCI du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine, les autres organismes départementaux et UGECO. Et donc, il y a ce triptyque UGECO, Ouest Atlantique et ces autres organismes, et Ouest Atlantique qui sert un petit peu de lien qui fait ses propositions à UGECO, UGECO qui les accepte, qui les refuse, et on se déplace si ça vaut le coup. Alors vous voyez, il y en a eu quand même pas mal. Le nord du Morbihan, l'est de l'Ille-et-Vilaine, le nord aussi de la Loire-Atlantique. Alors tout de suite, le nord du Morbihan, c'est niette tout de suite. Aucun cadre n'ira dans des bleds dans le Morbihan. C'est dit comme ça, hein, c'est dit comme ça. Alors, au bout du compte, il y a deux villes qui vont tenir la corde. La première, c'est Redon. Ça plaît bien à Bérard. Il va d'ailleurs voir le maire du coin, Jean Tiget, sans étiquette. Vous voyez ce que ça veut dire? Et donc, il va le voir. Redon, pas de problème. Il y a un réservoir de main-d'œuvre. Il y a en plus un éloignement de Nantes, mais pas trop. Hein, bon, une ville. Bon. Sauf que Redon, il y a aussi un climat social à Redon. Hein. C'est la grande grève de 67, c'est la grève du lait en 72. Donc ce climat social, bon, Bérard, c'est pas trop son truc, quoi. Hein. Au bout du compte, bon, Redon, on laisse tomber. Et pourtant, le maire Tiget était prêt à lui faire un certain nombre de concessions financières. Mais bon, on laisse tomber. Ensuite, deuxième ville qui tient la corde, Dinard. À un moment donné, les journaux croient que ça va être Dinard. Hein. Dinard. Alors, pourquoi Dinard ? Proximité de Saint-Malo, aspect logistique, il y a déjà une unité de production à Saint-Malo. Là encore, une main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. D'autant plus que, comme à Saint-Malo, finalement, bon, c'est des villes touristiques. Donc l'été, on aménageait l'emploi du temps, enfin les heures de travail. On terminait à 14h et ensuite, eh bien, les filles pouvaient aller faire une deuxième journée dans le tourisme. On nous dit pourquoi pas. Bon. Dinard, il y a un problème. Ville touristique, le prix du terrain. Ah, le prix du terrain, on lui propose à 16 francs le mètre carré. Bon, ça pique un peu quand même pour Bérard, lui qui l'a obtenu à 2 francs 25 à Sainte-Pazanne. Donc c'est certainement ce qu'il va bloquer Dinard. Par contre, ce qui bloque, c'est certainement qu'il va trouver mieux à ce moment-là. Et ce qu'il va trouver mieux, eh bien, c'est Guérande. Alors Guérande, vous allez me dire, mais vous parlez du milieu rural. Bah oui, mais Guérande, à l'époque, c'est un milieu rural. Il ne faut pas plaquer sur ce qu'est devenu Guérande en 2022. C'est un milieu rural, Guérande, à ce moment-là. Guérande, qui, en fait, se trouve dans une situation... Elle se sent délaissée, Guérande, quoi. Alors, vous savez, hein, c'est la grande époque de la Basse-Loire, hein, métropole d'équilibre, Nantes-Saint-Nazaire. Ça monte un peu jusqu'à la Baule, mais Guérande se sent délaissée. En plus, c'est le moment déjà de la crise du sel, la crise salicole. On a une main-d'œuvre féminine, notamment, avec un chômage important. Donc là, il y a effectivement cet aspect-là. Et puis, donc, Guérande va être prêt à faire des concessions très importantes pour obtenir cette entreprise, pour obtenir donc la localisation de l'unité de production. Et c'est là qu'interviennent encore nos relations interpersonnelles, nos relations politiques. Bon, Guérande, c'est près de la Baule. La Baule, c'est bizarre, ça vient tout de suite, ça, la Baule-Guichard, hein, c'est bizarre. Guichard, à l'époque, c'est pas n'importe qui. Il est ministre de l'aménagement du territoire. Et il y a tout un clan gaulliste, là, qui va tourner autour de ça. Le député du coin, il s'appelle Rabreau, Michel Rabreau, député de la circonscription. Alors, député, parce que il était le suppléant de Guichard. Guichard devient ministre, il devient député. Et ensuite, il deviendra maire de Guérande, aussi, ensuite, plus tard. En plus, il y a une grande réunion où Bérard vient, on est le 9 septembre, Bérard vient à la Baule, ça se passe à la Baule. Hein. Et la réunion, on a Bérard, on a évidemment Richard, le député, il vient, quoi. Hein, bon, voilà. On a également le maire de Guérande qui s'appelle Jean Ménager, centriste, mais bon, non, UDR, pardon, il était maire UDR. Et donc, c'est là que, effectivement, la décision est prise. Le terrain, 1 franc le mètre, imbattable. Le terrain est à 1 franc le mètre, et il n'y a pas que ça. Sainte-Pazanne, je vous rappelle, 2 francs 25. Hein. Bon, Dinard, c'était 16 francs. Bon, là, c'est pas la même chose. Tout l'aménagement est pris en charge par la mairie. Adduction d'eau, électricité, 3 lignes téléphoniques, élargissement de la route d'accès, exemption de la patente pendant 5 ans, c'était le maximum, et mise à disposition d'un atelier relais gratuit. On voit bien que là, ce qui a joué, ce sont les conditions extrêmement favorables, mais pour une ville Guérande qui, effectivement, se sentait totalement délaissée et qui avait un chômage important, notamment de femmes, avec la crise salicole notamment, et qui se sentait délaissée par rapport à une métropole d'équilibre, la Nantes-Saint-Nazaire. En tous les cas, eh bien, 30 septembre, la vente est faite et elle est opérationnelle en mai 1973. Le seul problème, c'est que ça va durer même pas 10 ans. pour conclure, on voit bien que la stratégie de délocalisation, là, elle est liée en fait à plusieurs choses. Facilité de recrutement. Les communes qui offrent les conditions d'implantation les plus favorables, et c'est ce qu'a joué pour Guérande, à l'évidence. Les aides des pouvoirs publics, bon, j'en ai pas parlé parce que, bon, voilà, je pouvais pas parler de tout, mais il y a évidemment, à partir du moment où vous installez quelque part, à l'époque, vous avez des aides, notamment de la réadaptation, etc. Et ces aides, en fait, n'étaient pas plus intéressantes, quel que soit le département. Et puis, les amitiés politiques, hein, ce climat de confiance qui a été créé entre quelques hommes, comme ça, qui fait qu'on va préférentiellement, évidemment, faire confiance à eux et s'installer à partir de leur réseau à eux. Voilà. Alors, en 1974, donc, on a les cinq ateliers du GECO, on a Le Gé, on a Sainte-Pazanne, Guérande, Saint-Malo, Louviers. Alors, Bernay avait disparu par manque de recrutement, par manque de... Et puis Nantes a disparu, bien évidemment. La crise du textile, ça commence, hein, c'était déjà un peu, mais là, vraiment, ça va se développer très vite. En juillet 1978, UGECO dépose le bilan. C'est Biedermann qui reprend et qui a, à ce moment-là, quasiment le monopole de l'habillement militaire en France. Et puis, en 82, l'usine donc de... Non, Guérande, c'est 80, pardon. C'est en 80, l'usine de Guérande donc, ferme ses portes. Le licenciement de 203 personnes. Et puis Le Gé, ce sera mars 92, et Sainte-Pazanne, janvier 93. Et là, les deux entreprises, ça fait 300 personnes qui se retrouvent au chômage. Voilà. C'est fini, et évidemment, à ce moment-là, ces entreprises n'ont plus du tout le moyen de faire face, évidemment, à la concurrence venant d'Afrique du Nord ou la concurrence d'Europe de l'Est. Mais ça faisait déjà un moment, parce que déjà à l'époque du GECO, dans les années 70, au début des années 70, leur principal commanditaire, enfin, c'était l'État, quoi. Et l'État payait mal. Non seulement l'État payait mal, mais en plus, ils allaient parfois aussi passer des commandes en Espagne, et en plus, ils faisaient parfois aussi faire leur confection par les pénitenciers. L'intérêt, c'est que c'est une main-d'œuvre qui est relativement pas chère, celle-là, elle est encore moins chère que les autres main-d'œuvre. Et donc, déjà, il y avait ces difficultés-là qui étaient des difficultés réelles. En tous les cas, UGECO, ça reste un conflit oublié. Hein. Bon, c'est un autre débat et c'est autre chose. Voilà, merci.
Bonjour, oui. Bonjour. Très intéressant. Mais des femmes, il y en avait aussi beaucoup qui travaillaient dans le Maine-et-Loire aussi.
Bien sûr. Oui,
parce que vous parlez de l'homo que je connais par cœur, parce que j'ai travaillé, moi, chez de l'homo. Mais il y avait beaucoup plus de femmes dans le Choletais que même dans la chaussure, même.
Mais je me suis limité à la Loire-Atlantique, quoi. Alors, c'est vrai que je donnais les chiffres, là, de 2,5% des salariés qui étaient dans le textile. Si on prend le Maine-et-Loire, on est à beaucoup plus que ça. L'industrie textile a un poids beaucoup plus important dans le Maine-et-Loire, et même en Vendée.
Est-ce que vous pourriez me dire où était située l'usine Alger et qu'est-ce qu'elle est devenue éventuellement ?
Je suis Jean-Marc Gaillard et je suis président de l'association des Amis de Alger, qui est une association d'histoire locale. C'était la première raison de ma présence ici. Et la deuxième, c'est que ma mère a travaillé à UGECO. Donc l'usine est devenue un centre d'apprentissage par le travail, donc pour les personnes qui sont handicapées. Voilà, alors ça se situe dans la ville vraiment de Le Gé, direction Les Lux sur Bologne. Oui, voilà. Ouais. Oui. Mais le bâtiment existe toujours. Hein. Voilà. Alors j'ai malheureusement que des souvenirs familiaux, je n'ai pas de documents écrits. J'ai quelques photos quand même hein, de l'inauguration. Le nom de Monsieur Bérard, je l'ai souvent entendu. Monsieur de Cagny aussi, je ne sais pas si... madame, vous avez certainement beaucoup de choses, vous, à dire. Hein. Voilà, c'est ça. Les temps de pause pour les toilettes, alors effectivement, ça, c'était qu'une seule fois. Et les cadences, là, je ne peux que confirmer les... où c'était vraiment infernal. Alors, par rapport à la grève, je me souviens qu'effectivement, des ouvrières de Nantes étaient venues sous les banderoles CFDT. Voilà, c'est ce que j'ai... Non, 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 c'était...
Bon, bah, là, c'est bon. Hein.
Non, ouais. C'est pour l'enregistrement.
Tu enregistres aussi le débat. Ah ouais, bon. En fait, elles sont venues à deux reprises. Elles sont venues une première fois au moment des débrayages d'avril 70. Et elles ont voulu effectivement qu'à l'EG, on débraye aussi. Et il y a quelques personnes qui ont débrayé, mais c'est là qu'effectivement, il y avait une implantation de la CGT, hein, Boudic, qui avait une trentaine de cartes d'adhérents. Mais la majorité des employés, en fait, ne suivaient pas les mouvements. Hein. Et c'est la même chose en 71. Et on retourne, et effectivement, en 71... il y a effectivement une partie qui sont d'accord pour être solidaires, mais la grève ne prend pas. Elle prend d'autant pas que directement le patron là accepte les revendications de l'EG. Évidemment, on comprend bien pour éviter que le mouvement ne s'étende. Il faut savoir que, alors bon, j'ai retrouvé un petit peu les salaires de l'époque. Ils étaient payés moins cher à l'EG. Les salaires de l'EG étaient un petit peu plus faibles. Ça se joue à 5 centimes de l'heure.
Mais bon, voilà, vous l'avez évoqué, une main-d'œuvre peu qualifiée, trop heureuse d'avoir un travail à deux pas de chez soi. Hein.
Ce que je peux dire, c'est que, ben, en fin de compte, Ce que je peux dire, c'est que, en fin de compte, j'ai démarré GECO, j'ai fini mon CAP à la Bottière en juin, et j'ai travaillé 15 jours en juillet, puisque après l'entreprise fermée pour les vacances, j'ai travaillé 15 jours en août, et on a démarré après 5 semaines de grève.
Ah oui, donc vous avez...
Et donc j'avais, bon, je vous dirais, j'avais juste 17-18 ans, quoi.
D'accord.
Et donc, ben, c'est vrai que je peux dire que le bâtiment était vétuste. Moi, j'étais à la coupe. C'est pour ça que j'ai pu vous dire ce que faisait le monsieur, là, tout à l'heure. Et en fin de compte, le sol, enfin, c'était était tout bombé. Enfin, on avait beaucoup de difficultés pour travailler, quoi. Et puis, bon, ben, en fin de compte, après, ben, il y a eu la grève. Et, en fin de compte, ça a été très dur. Pour moi, j'étais encore chez mes parents, donc c'était assez facile. Mais pour les femmes qui avaient des enfants à s'occuper, tout ça, c'était compliqué. Et on a fini par aller dans des fermes pour récolter des aliments. Mmh. Et en fin de compte, après, bon, on a repris. Mais moi, ça m'est encore flou, en fin de compte, que c'était avec la CFDT. Je ne me souviens pas de ça. Mmh. Mais je sais que j'étais 5 semaines en grève et ça marque pour un début de carrière.
Oui, bien sûr. Alors oui, par rapport juste à la CFDT, c'est vrai que les deux leaders syndicaux, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de Juliette Housset, je pense...
Tout ça, je ne me souviens pas, mais Jacques Guinche.
Alors, je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Bon. Et leur relation était assez mauvaise avec Pierre Mabie, qui était le secrétaire de l'Union locale, qu'il considérait comme beaucoup trop tiède, quoi. Hein, depuis le début du mouvement, quoi. Je pense que ça a joué un rôle aussi, ça.
Mais pour revenir aux cadences, c'est vrai que c'était... Moi qui étais à la coupe, c'était différent. Mais les personnes qui étaient sur les machines, c'était... L'horreur. Oui. Et puis même nous, à la coupe, il fallait qu'on fasse aussi notre travail aussi. Hein. Donc, mais je sais que les personnes qui étaient sur les machines, bon, pour vous dire une chose, c'est que l'heure était divisée en centièmes d'heure. Donc elles avaient un certain nombre de centièmes d'heure pour monter, admettons, une ceinture de pantalon, monter une fermeture éclair. Bon, enfin, vous voyez, non, c'est... Bon, ma carrière a terminé autrement, mais c'est vrai que... Donc, je n'ai pas suivi à Sainte-Pazanne, parce que, en fin de compte, c'était trop loin pour moi. Quoi. J'habitais Nantes, et donc, après, j'ai changé d'entreprise.
Mais, oui.
Mais bon, si UGECO était resté, j'aurais peut-être fait toute ma carrière à UGECO.
Oui, en plus, c'est le moment, là... un certain nombre sont partis à LMT, hein, qui s'installait juste à ce moment-là, à Orvault. Hein, donc... Il y en a un certain nombre qui sont partis là. D'autres qui ont été licenciés purement et simplement. Quoi. Alors après, bon, enfin, mais...
Moi, j'ai pas été licencié parce que j'ai changé d'entreprise.
Ben oui.
Donc j'ai demandé mon compte.
Quand, en fait, l'entreprise va fermer, il n'y a plus que 200 personnes. C'est-à-dire que déjà, un certain nombre sont partis et ont trouvé ailleurs. Quoi. Et je vous dis, il y en a 78 qui partent à Sainte-Pazanne. 78. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que c'est 30 km de Nantes, donc il y avait le problème de la cantine, il y avait le problème des cars, il fallait trouver des horaires qui correspondent. Et c'est vrai que ça, d'après ce que j'en ai lu, il y a des gens que ça a un petit peu repoussé, toutes ces histoires de cars, etc., de cantine, voilà quoi.
À cette époque-là, oui, 30 km, ça faisait un peu loin quoi, pour aller travailler. Puis donc, j'étais à l'est de Nantes, donc voilà.
Il y avait aussi la pression sur les cadres. Moi, je me souviens très bien de la responsable de l'EG qui s'appelait Madame Jaunet, qui habitait Nantes, donc qui faisait le déplacement tous les jours. Et elle était prise dans les taux classiques de la direction qui lui demandait, bien sûr, des chiffres de production, et elle qui devait relayer auprès des ouvrières la cadence à tenir. Et cette dame-là, même si elle était extrêmement compétente et extrêmement humaine, je pense, dans le fond, n'a pas pu tenir. Et c'est triste, mais elle a sombré dans l'alcool. Elle a sombré dans l'alcool, a quitté l'entreprise dans la journée pour assouvir cette addiction. Donc vous voyez, le personnel souffrait, mais je pense qu'aussi la pression se faisait sur le personnel d'encadrement.
Je pense qu'il y a été un petit peu un déclencheur de ce mouvement, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler, le directeur de l'entreprise du GECO était venu au lycée, enfin au collège, pour recruter des personnes, dont moi, en fin de compte. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en juillet, j'ai travaillé en août. Et ce directeur, quand nous sommes rentrés en août-septembre, il avait été licencié. Et donc, je pense, avec mon regard de mes 18 ans, et en fin de compte, ce qui avait été dit, c'est que c'était quelqu'un de trop humain. Le souvenir que j'en ai de ce monsieur, c'est vrai qu'il était quelqu'un de très humain et je pense que ça ne devait pas plaire à la direction.
Parce que... Vous ne vous souvenez pas de son nom ?
Non, je ne me rappelle pas de son nom. Mais le nom que vous avez dit tout à l'heure, monsieur De Cagny, ça me dit quelque chose. Ça.
Et ce magnifique bâtiment de Guérande, là, qu'est-ce qu'il est devenu ? Parce que 10 ans d'existence, ça ne devait pas être vétuste.
Archives municipales, et c'est là que j'ai trouvé le document, mais je ne me suis pas rendu sur place.
À
Sainte-Pazanne, il n'y a plus rien.
Quant à celui de Nantes, j'ai cru reconnaître la grille rue de Coulmiers, je passe souvent rue de Coulmiers, il me semble qu'il y a un HLM maintenant.
Oui, ah bah oui. Enfin, HLM, il y a des immeubles, hein, mais... Les grilles sont restées.
Oui, je voudrais, par rapport à tout ce que vous avez indiqué, qui était particulièrement intéressant... Rajouter un élément alors, qui concerne UGECO, mais surtout sur les conséquences de ce mouvement. C'était donc en 71, peu de temps après 68, il y avait eu la grève des Batignolles, effectivement, qui avait mobilisé le monde ouvrier et le monde militant sur le territoire. Et là, on avait affaire à une, je dirais pratiquement pour la première fois, à une grève de femmes. Et l'extrême gauche, bien évidemment, était très présente. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais à la gauche prolétarienne. Avec les camarades de l'AGP, mais également avec les copains de la Ligue, nous étions pratiquement tous les jours aux portes des usines, et notamment de cette usine, pendant la grève. Et ça s'est traduit en fait par de nombreux contacts avec de jeunes ouvrières qui, au-delà de leurs problèmes de salariés, se posaient bien évidemment leurs problèmes de femmes. Et nombre de ces ouvrières, qui sont parties très rapidement d'ailleurs de l'usine, ont rejoint le mouvement des femmes. Donc ça a aussi contribué à alimenter le mouvement femmes sur la cité.
Dans les archives, là, au CHT, j'ai retrouvé il y a un ou deux... tract des Mao, qui vilipendait justement le syndicat qui évidemment n'allait pas assez loin. Et je crois, hein, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est eux qui avaient été à l'origine du ravitaillement par les paysans. Il me semble que s'il y avait, il me semble que en tous les cas, ils l'avaient organisé.
Les réseaux avec La Chapelle-sur-Eure, des paysans de La Chapelle, peut-être ? Joseph Potiron ?
Ben, c'était peut-être, ça, oui.
Ouais, c'est ça.
Peut-être, oui, peut-être. Bon, on est en plein dans cette époque-là, en tous les cas.
Jusqu'à Pontchâteau, d'accord.
Ah oui, oui. Oui, oui. Alors, la solidarité, alors c'est vrai que ça a mis du temps, quoi. Ça a démarré assez tardivement. Et. Alors, ils ont même fait une. Après, il y avait le syndicat qui était derrière, mais fait une collecte lors d'un match de foot, Nantes-Porto, alors c'était la Coupe d'Europe à l'époque, voilà, pour avoir de l'argent, quoi. Hein. Mais ils l'ont. À chaque fois, il y avait un peu ce côté, se montrer en spectacle, etc., quoi. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Cette pratique militante, c'est une histoire de mecs, quoi. Hein, donc, se montrer en spectacle, tout ça, c'était compliqué, c'était difficile.
Oui, pour poursuivre sur ce thème, il est vrai, par exemple, que l'ensemble des actions qui ont pu être réalisées pendant la grève des Batignolles n'ont pas été reprises pendant cette grève-femme. Enfin, et en ce qui concerne les collectes qui étaient faites donc par le Secours Rouge à l'époque, j'ai pas souvenir d'en avoir vu pour ce mouvement-là en tout cas. Oui, pour les Batignolles, oui, là, il y en avait d'énormes, il y en a eu beaucoup de fêtes, mais pas sur ce mouvement-là.
Il y a eu des collectes de fêtes quand même dans les entreprises, aux Batignolles notamment, from 3100 francs récoltés. Si mes souvenirs sont exacts, et dans d'autres entreprises. Au total, alors, je ne sais pas ce que ça représente, là, hein, c'est toujours difficile, mais elles avaient quand même réussi à récolter au bout de 5 semaines 70 000 francs. Bon, sachant que le salaire mensuel, le SMIC, était à peu près à 750 francs. Voilà. Bon, c'est pas... Enfin, c'est pas mal, au bout du compte, au bout de 5 semaines, mais il y avait effectivement beaucoup de filles pour qui c'était dur, quoi. Fallait tenir, quoi. Fallait tenir.
D'autres questions ?
T'as même pas une question. Ben si, j'aurais plein de questions. Je t'ai trouvé particulièrement brillant ce soir.
Merci. T'as quelque chose à me demander ?
Non, certainement pas. Non, mais ça, le recrutement, quand madame parle du recrutement où le patron allait chercher dans les écoles, on fait actuellement un travail avec ma collègue sur la grève de la saisie à l'INSEE. Une grève des dactylocodeuses à la fin des années 70, et ces jeunes femmes étaient recrutées dans les écoles privées de secrétariat au début des années 70, parce qu'on les savait modèles, c'est-à-dire dociles. Et elles étaient mises dans des ateliers tout en randonnion comme ça, et soumises à des cadences effrénées, avec sous la férule d'anciens militaires. Donc on est en train de travailler ce dossier-là, et ça rappelle vraiment... prendre des jeunes filles donc malléables, dociles et qui ont voilà dont c'est la première expérience professionnelle avec la pression en effet de la production et de la cadence.
Le problème des cadences, c'est qu'il faut à la fois lier précision et rapidité, quoi. La couture, hein, c'est ce qu'elles disent, hein, c'est le témoignage, c'est extraordinairement pénible. Il faut être à la fois rapide et précis. Et cette pénibilité évidemment n'est pas reconnue et moi, c'est vraiment, quand j'ai réussi à avoir au téléphone là, cette dame, Joëlle Gergaud, qui au départ ne voulait pas me parler. Il a fallu vraiment que je réussisse au bout de quelques minutes. Et finalement, son seul souvenir, c'était ça, quoi. Elle n'a pas du tout de souvenir de la grève. Pourtant, elle a été dedans. Elle y était de 70 à 72. Elle est partie en 72. Elle n'avait aucun souvenir. Par contre, ce qu'elle se souvenait, c'était de voir ses filles autour d'elle. Elle était mécanicienne, elle aussi. Hein. Apparemment, elle y arrivait. De voir ses filles autour d'elle qui pleuraient, quoi. Parce qu'elle n'est pas la cadence, quoi. Et donc, une fois lettre commandée, trois fois, dehors. C'était... les choses sont claires, quoi.
J'ai
J'ai eu travaillé pour Tricosa, alors pas directement Tricosa, la partie couture, j'étais cuisinier, donc il y avait un restaurant d'entreprise à Tricosa, et enfin moi je suis arrivé à la fin moi, de Tricosa, grosso modo, je suis arrivé à Nantes pour travailler en 81, et j'ai dû commencer à travailler à Tricosa, enfin restauration de Tricosa en 82 ou quelque chose comme ça. Bon, puis ça a dû être liquidé en 84 dans mon souvenir, ou 85 peut-être, je sais plus trop. Par contre, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des plans de licenciement les uns après les autres, quoi, tous les deux ou trois ans, dans Tricosa. Je sais pas, elles étaient peut-être 600 ou 700 à bosser à une certaine époque, d'après ce que j'ai cru comprendre. Quand j'y suis arrivé, elles étaient plus qu'à peine 150 à tout casser, quoi. Il y avait, enfin, l'endroit où c'est qu'il y avait la cantine, c'était pas directement dans les bâtiments de Tricosa, c'était un passe Bayard à 300-400 mètres à tout casser. Et le, enfin, je sais pas qui s'appartient ce truc-là d'ailleurs, parce que ça a été foutu en l'air. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a un an, on y a été dans les décombres ou presque faire des photos de ce qui restait du restaurant d'entreprise et tout le bazar. Et bon, c'est pour construire des immeubles à côté de ce qui était le garage Rover, qui donne, je ne sais plus comment ça s'appelle, le boulevard où il y avait Tricosa, c'est pas le Loubouillet, c'est l'autre à côté.
La Mauricière.
La Mauricière, voilà, exactement. Et bah, l'impasse Bayard ou la rue Bayard donne sur la Mauricière. Bon, voilà, c'était tout.
Alors, c'est pas du tout le même secteur, mais dans ce qui a été dit ce soir... Ça a résonné avec ce que j'ai regardé hier soir sur France 2. C'était en replay, c'était la révolte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, les autres Batignolles, à Paris. Et en fait, sur la main-d'œuvre docile, le fait qu'elle pleure par rapport aux cadences, que c'est une grève historique avec des néo-militantes. Qui ont été super bien accompagnés pour le coup par la CGT et qui s'est terminée par une victoire aussi et par l'élection de leur leader à l'Assemblée nationale. Mais du coup, il y a beaucoup de... Voilà. Et en fait, sur la main-d'œuvre docile, ils allaient les chercher dans les écoles privées. Bon, là, c'est des femmes qui arrivent d'Afrique. Voilà. Donc, ça, juste en écho.
Évidemment, il y a aussi l'écho avec Chantel, hein, mais bon, évidemment. Mais c'est 10 ans plus tard. Et oui, là, c'est maintenant, oui, bien sûr. Mais Chantel, bon, pour rester dans le local, quoi, mais c'est 10 ans plus tard, c'est un autre contexte. Et puis, bon, Chantel, il y a une mémoire, évidemment, mais aussi... Le problème du GECO, c'est que la mémoire, il n'y a pas de lieu. C'est-à-dire, en 72, 73, ça y est, tout le monde part, quoi. Il n'y a pas de mémoire du lieu, il n'y a pas... C'est un conflit qu'on a oublié, finalement. Il n'y a pas de lieu. Et puis, il n'y a pas non plus d'employés, d'ouvrières, de salariés qui étaient là depuis très longtemps. Bon, Chantel, il y a eu la durée. Là, il y avait un turnover qui était énorme. Hein. Quand on regarde les listes là, des ouvrières, souvent, bon, elles sont là depuis 1 an, 2 ans. Quoi. C'est très rare de voir quelqu'un qui est là depuis 6, 7, 8 ans. Plutôt les hommes. Ils ne sont pas nombreux, mais eux, ils ont une antériorité plus forte, une ancienneté plus forte.
Je voulais dire, par rapport aux cadences, personnellement, je n'en ai jamais souffert, mais j'ai quitté l'école Libette en 1953 avec mon diplôme, et les cadences faisaient partie des enseignements. On nous parlait du staccanovisme et du taylorisme, et des pointages, des durées d'intervention sur tel, je sais plus, j'ai oublié un petit peu, tel travail prenait tant de temps, on choisissait après le meilleur temps. Et évidemment, quand j'entendais ça à cette époque-là, j'étais aussi tout jeune, et j'étais un peu effrayé, mais je n'ai jamais été confronté à ce problème-là. Les entrepreneurs venaient recruter des employés. Et par ailleurs, l'école plaçait également ses élèves dans la mesure où ils étaient satisfaisants, si je puis dire.
Oui, et je voulais juste revenir sur Chantel. Au départ, je pensais que tu allais faire un parallèle avec Chantel, enfin, qu'il allait y avoir des solidarités ou des liens. Et en fait, je me pose la question de savoir si finalement, ce n'est pas Chantel qui a bénéficié de la lutte UGECO, notamment de la part des organisations syndicales qui vont peut-être avoir une espèce de, je dis, mauvaise conscience, mais ou en tout cas garder en mémoire le fait qu'il faut être attentif à ces luttes-là, et ils le seront en 80.
Peut-être. J'en suis pas persuadé. Je sais pas. C'est 10 ans plus tard. C'est 10 ans plus tard. Le champ syndical est complètement différent. À Chantel, t'as vraiment la CFDT et la CGT. Une CGT qui est quand même très présente. Je sais pas. On voit bien quand même que Bernard Henry même le dit bien, hein, lui-même qui était déjà quand même... il était quoi en 71 Il était jeune, oui, mais il avait déjà des responsabilités. Mais il dit bien que c'était un conflit qu'il avait suivi de très très loin. En fait, je crois que 80, c'est un peu différent, mais en 71, on ne les prend pas au sérieux, quoi. Pour faire simple, quoi. Et pas que le patron. Il y a ce mépris patronal qui a été vraiment, je pense, un moteur, un levier. Et puis, il y a quand même quelque part aussi des syndicats qui n'y croient pas trop non plus. Enfin, je n'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression. Après tout, c'est une grève de femmes, quoi. Bon.
Et puis il y a peut-être une autre dimension, c'est que les années 70, c'est les années d'insubordination ouvrière, comme on dit. C'est-à-dire que les luttes se succèdent les unes aux autres. Et quand on travaille sur la grève de la saisie, les dactylocodeuses, rétrospectivement, ils accordent une importance fondamentale à ce conflit, comme quelque chose d'extrêmement marquant. Mais sur l'instant, ils disaient, bon, le conflit, voilà, il dure 3 semaines, 1 mois, toc, on repart sur une autre lutte, parce que. Donc aussi, ça aide pas à figer la mémoire, parce que les luttes se succèdent les unes aux autres, et puis il y a la perspective, pour certains, la perspective révolutionnaire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Ah ben,
vous savez que vous allez qu'on va repartir avec votre adresse, et qu'on aimerait bien votre témoignage, hein.
Donc, j'ai vu que vous aviez parlé de Tricosa aussi. Et donc, j'ai travaillé chez Tricosa. J'y ai travaillé 9 ans. Et pareil, l'usine, bon, en fin de compte, ils ont fait des licenciements. Et là, j'ai changé de travail à ce moment-là. Donc, l'usine a fini par fermer après. Et ce qui est déplorable, c'était quand même 400 personnes qui étaient licenciées. C'était rue la Mauricière. Alors là, c'était différent d'habillement. C'était plus l'habillement militaire, c'était l'habillement pour les femmes. Et c'était, en fin de compte, entre la haute couture et le prêt-à-porter, quoi. Donc, le prêt-à-porter de luxe. Ouais.
Alors, c'est intéressant, c'est de voir que c'est quand même une époque où l'industrie est encore présente en ville. Hein, la rue la Mauricière, rue de Coulmiers, c'est le centre-ville aujourd'hui, quoi, ou presque. Et qu'évidemment, depuis, l'industrie a totalement déserté la ville, et elle a déserté aussi même la banlieue, quoi. Elle a tout déserté, quoi. Bon. Mais non, mais on a du mal à croire aujourd'hui. Et puis bon, il y avait quand même du bijou, enfin bon, hein, l'île de Nantes, enfin, il y avait vraiment une implantation, un enracinement industriel qui était très fort.
Bon. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Ne partez pas, madame. Non, parce que vous avez pu mesurer l'importance de la parole des témoins. Parce que Yannick, quand on fait un travail historique, on a du papier, c'est un peu froid. Et on recherche beaucoup les témoins, et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais rien à dire, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, en grattant un petit peu, ils ont plein de choses à nous apprendre. Donc voilà. En tout cas, merci à vous, et puis à une prochaine conférence aux archives départementales.